France Musique. France Musique. Les grands entretiens. Philippe Cassard.
Je m'appelle Michel Béroff. Je suis né le 9 mai 1950 à Épinal. Et je suis pianiste. Quand j'avais 12 ans, après mon premier prix au conservatoire de Nancy, où j'avais joué entre autres, j'avais joué quand même la sonate funèbre de Chopin à 12 ans, burlesque de Strauss, des trucs, à 11 ans d'ailleurs, le premier prix, puis à 12 ans,
c'était burlesque de Strauss, oui, mais alors sans orchestre.
À deux pianos. Oui, donc j'avais déjà, je jouais des répertoires déjà conséquents, et mes parents habitant Épinal, toujours, il a été décidé que, comme j'étais admis au conservatoire, il fallait que je vienne à Paris. C'était évidemment toujours une situation compliquée. Dans ces cas-là, je n'allais pas faire l'aller-retour toutes les semaines. Donc, on s'est débrouillé pour me trouver une famille d'accueil. Voilà, j'avais une famille d'accueil. Je me souviens qu'elle était boulevard de Courcelles. Elle avait trois femmes de trois générations différentes. C'est très sympathique. Une qui avait peut-être 70 ans, une 40 et une 25. Donc, je vivais au milieu de ces femmes. Mais bon, j'avais une chambre à moi, évidemment, et j'allais prendre mes cours au conservatoire, qui était donc rue de Madrid, à 10 minutes à pied, donc ça, c'était pratique. Au début, j'étais au cours Atmer, qui était donc le seul cours qui permettait à des musiciens et des comédiens de continuer une scolarité. Et puis, au bout d'un an, ça s'est avéré trop prenant encore, donc j'étais au CNTE, enfin, le CNED, maintenant c'est le CNED, oui. Et donc, je faisais mes devoirs à la maison, c'était évidemment une vie très solitaire quand même.
Oui. Mais vous étiez brillant par exemple en maths?
Non, j'étais normal. J'ai pas souvenir d'avoir jamais été un élève spécialement brillant. Bon, je me souviens que même parfois, quand mes parents sont venus à Paris, je te faisais des maths avec mon père. Mon père, bon, lui, il n'était pas très très patient, donc si je comprenais pas quelque chose, il s'énervait. Non, j'ai jamais été quelqu'un de spécialement. Non, j'étais un élève tout à fait normal. Bon, alors je sais pas ce qui serait passé si j'avais une scolarité normale, parce que je sais, par exemple, mon grand frère, lui, a une scolarité tout à fait moyenne, et puis à partir de la seconde, il s'est mis à cartonner. Donc, ça peut arriver plus tard aussi.
Ça vous manquait le rapport à vos copains ou copines de classe que vous aviez avant?
Pas vraiment, parce que c'est vrai qu'à partir de l'âge de 13 ans, comme j'étais, le cours Atmer, passait pas non plus tellement de temps pour laisser cours. Chacun rentrait chez soi après. Donc, la vie d'écolier, elle était limitée, de collégien est limitée. Au conservatoire, c'est vrai que c'était un petit peu comme ça. Quand même, on prenait ses cours et je rentrais parce que je devais quand même travailler. Et j'avais pas la liberté non plus de sortir le soir. Si je devais aller à un concert, fallait que je téléphone à mon père pour avoir l'autorisation de pouvoir sortir. Et bon, j'étais quand même assez surveillé. Donc, j'avais effectivement quelques amis, donc je peux pas vraiment dire que ça me manquait, je pense que ça m'a beaucoup manqué en fait, mais j'avais pas cette sensation. C'est-à-dire, c'est vrai que l'adolescence chez les musiciens, c'est souvent un moment qui est compliqué et souvent on la rate cette adolescence. Et après on veut la rattraper, mais c'est un autre temps et on peut jamais remplacer ce qu'on a perdu ou pas eu. Et donc je dirais, à la recherche du temps perdu, on voit un petit peu le nombre de livres qu'il faut écrire pour essayer de cerner un petit peu le problème. Non, c'est vrai que je pense que j'aurais beaucoup mieux vécu si j'avais été entouré de... Enfin, oui, pas un campus, parce que le campus américain, c'était pas du tout le système d'enseignement qu'on avait en France. Mais c'est vrai que, par exemple, puisqu'on parle de campus, quand j'ai été professeur à Bloomington, bien des années plus tard, j'y étais uniquement pour le fantasme d'être sur un campus et de pouvoir avoir cette vie-là. Cette vie était solitaire. Ça m'a forgé un peu une partie de mon caractère. Mais encore une fois, tout ça est une succession d'événements. Et je peux aussi dire que, par exemple, à la maison, mon père était quand même le pater familias. Et c'est lui qui nous disait ce qui était bien, ce qui n'était pas bien. Ce n'est pas forcément moi qui choisissais, ni mes sœurs, ni mon frère. Donc, on écoutait sa parole. Et c'était à peu près tout ce qui était... permis d'avoir la maison. Mais je sais que mes sœurs, par exemple, c'était interdit de pouvoir écouter le moindre disque de musique de variété à la maison. Il était hors de question. Donc il y avait, effectivement, comme tout à l'heure je disais sévère, ça dépasse un petit peu parfois ce terme. Moi, encore une fois, c'est pareil. Je pense que j'étais docile parce que je vois, par exemple, d'autres enfants. Je vois ma dernière fille. Je vois comment elle s'exprime. Je vois, bon, même si les rapports en 50 ans, en 60 ans ont changé énormément. Mais j'étais pas du tout un enfant qui manifeste mon mécontentement. J'ai accepté tout ça. Donc, j'étais suffisamment malléable. Alors, évidemment, après, la question de savoir est-ce qu'on fait ça pour être aimé? Bon. Et comment est-ce qu'on a été aimé? Bon, après, c'est du domaine du psychologue. Et d'ailleurs, que beaucoup de musiciens vont voir aussi par la suite. Psychanalyste, pas seulement d'ailleurs, mais donc c'est vrai que c'est une enfance, une adolescence qui était un peu spéciale.
Mais travailleuse en tout
mais
cas.
Mais très travailleuse, très sérieux, c'est vrai que je travaillais.
Balisée.
Mais rapidement, je me souviens quand à partir de l'âge de 13 ans, je faisais 5 heures de piano par jour et j'avais aucun souci. Je me disais
pas. Vous questionnez pas, vous les faisiez.
Pas du tout, la question se posait pas. J'avais mes petits rituels. À l'époque, j'étais encore croyant, j'avais fait mes communions solennelles. On a tous comme ça quelques mois ou quelques années mystiques. Et donc, j'allais à l'église tous les dimanches, rue du Faubourg Saint-Honoré. Et j'avais à côté, rue d'Arru, il y a l'église russe. Mais il y avait surtout en face la pâtisserie russe qui était délicieuse. Et je m'achetais chaque dimanche des petits gâteaux pour ramener à la maison. Et alors, j'avais trois ou quatre gâteaux. Au bout d'une heure de piano, je prenais un petit gâteau. Enfin, tout ça était extrêmement codifié. Et donc, jamais je me suis dit, mais pourquoi je travaille? Non, c'était naturel. Une fois qu'on était au conservatoire de la classe de Pierre Sancan, il fallait produire. C'est-à-dire, chaque semaine, il fallait du répertoire.
Michel Béroff, je voudrais qu'on s'arrête un instant sur ces années au Conservatoire de Paris. Mmh. On a juste esquissé le parcours, mais on a sauté quand même les années du Conservatoire pour passer au concours de Royan. Pierre Sancan, j'imagine que c'est François Cholet qui vous a présenté à lui.
Présenté, il m'a dit qu'il y avait Pierre Sancan qui était un très bon professeur. Je pense que Yvonne Loriot aussi a dit ça. Elle n'était pas professeur à l'époque, pas encore. Et Maurice Leroux. Enfin, il y a de différents endroits, de différentes personnes. J'ai eu un conseil que Sancan était quand même un professeur qui, évidemment, faisait parler de lui, pas scandale, mais c'est vrai qu'il était quand même très, très différent des autres professeurs à cette époque au conservatoire. Et donc, j'ai...
Pour replacer les choses, c'était en 63 que
c'était en 1963 que je suis rentré aux
Inès. À 13 ans.
À 13 ans, oui. Et donc, j'ai été le voir, quelques mois avant, au mois de juillet, puisque le concours était en septembre à l'époque.
Et il vous a reçu comment?
Il m'a reçu, il était absolument charmant. Mais donc, j'étais chez lui, et puis je lui ai joué quelque chose. Alors, je suis incapable de vous dire ce que je lui ai joué. C'est vrai que... Il y a des choses comme ça qui disparaissent relativement vite. Mais enfin, en tout cas, il était suffisamment content pour me dire que oui, j'avais le niveau, je pouvais me présenter au Conservatoire de Paris. Et donc, je me suis présenté, je suis rentré tout de suite. Et c'est vrai que c'était des années qui sont passées à toute vitesse, enfin, 3 ans. Mais c'est vrai que je me suis retrouvé là à nouveau à 16 ans avec un premier prix du CNSM. Et
vous avez joué quoi?
Oh, j'ai joué la 4e balade de Chopin et le menuet toccata du tombeau de Couperin.
France Musique, les grands entretiens de Michel Béroff.
Et Sancan, alors, quels souvenirs vous en gardez?
Là aussi, c'est vrai que avec le recul, j'aurais beaucoup aimé continuer à travailler avec lui beaucoup plus tard, parce qu'après, il y a eu le concours Messiaen, et puis les choses se sont enchaînées beaucoup trop vite. Donc, j'aurais souhaité, parce que mes souvenirs de Sancan, évidemment, il y en a un certain nombre qui sont importants. J'ai beaucoup de souvenirs, évidemment, de tous les exercices qu'il nous a donnés. C'est vrai que je faisais quasiment 2 ou 3 heures de technique par jour.
Alors, il était très fameux, paraît-il, pour sa technique d'octave.
Oui, c'est vrai qu'on faisait beaucoup de technique. Moi, j'ai toujours pensé, de toute manière, que aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui pensent les choses totalement différemment. Mais, pour moi, c'est des outils. On construit des outils, et si ces outils sont performants et ciblés, on n'y pense même pas, on prend l'outil dont on a besoin. C'est comme si tout d'un coup, un sculpteur prenait, un gros burin pour faire un petit travail. Non, il faut savoir quel est l'outil qu'on utilise. Donc, il nous est travaillé effectivement les choses de base, les gammes, les octaves.
Mais à la classe?
Non, pas du tout. Non, on avait un cahier d'exercices, on le faisait.
Il vérifiait?
Non, pas vraiment.
Mais il vous faisait confiance?
Ah oui, il faisait confiance, oui. De toute manière, c'est une classe où il y avait quand même parfois... Petite obsession pour les choses techniques, par exemple, les octaves de la 6e Rhapsody de Liszt, il y avait ceux qui voulaient jouer le plus rapidement possible, ça devenait un peu cirque de temps en temps. Mais bon, c'était pas du tout comme ça qu'était Sancan, simplement il y avait quelques élèves chez lui qui étaient quand même très très impressionnés par le fait de pouvoir jouer très très vite des octaves. En tout cas, moi je me souviens que ce qui avait très bien par rapport aux octaves, c'est qu'on travaillait le poignet uniquement, les octaves du poignet, enfin toutes les tonalités. On travaillait les octaves avec l'avant-bras, l'avant-bras en rétraction. Finalement, beaucoup de choses qui servent, parce qu'il y a toute une chaîne, il y a le doigt, il y a la voûte, il y a le poignet, il y a l'avant-bras, il y a le bras, ensuite il y a le dos. Tout ça, c'est des segments qui sont évidemment, qui doivent être bien huilés les uns par rapport aux autres, mais quand on fait les octaves avec le poignet, c'est pas la peine d'utiliser l'avant-bras. Quand tout d'un coup on est fatigué du poignet, on a besoin de l'avant-bras, il faut que l'avant-bras soit solide. Quand tout d'un coup il y a tout le bras qui participe, tout le bras et le corps évidemment, puisque Sans Camp était aussi en contraste avec ce qu'on enseignait au conservatoire, dans la mesure où ce qu'on appelait la technique française digitale, qui était magnifique pour certains répertoires, était très très limitative. Toute l'école russe de piano qui a déferlé, et on s'est rendu compte que voilà, c'était pas du tout adapté pour une bonne partie du répertoire, pas seulement du XXe siècle, mais même du romantique et même classique. En plus, c'était un musicien quand même. Il était compositeur, chef d'orchestre, il avait une conception vaste et globale de la musique, ce qui était très très important pour nous. J'ai des souvenirs de l'attention qu'il portait évidemment au son. J'ai surtout beaucoup de souvenirs sur la manière dont il corrigeait les mouvements pour avoir un mouvement de plus en plus optimal et avec le moins de tension possible.
Et il jouait au cours ?
Il jouait, non, quasiment pas. Non, non, non. Donc il ne montrait pas, mais il disait finalement, en général, ce qu'il disait était toujours extrêmement précis et de bon aloi. Et donc, musicalement, j'ai des souvenirs effectivement de quelques préludes de Debussy magnifiques, sonates de Prokofiev. Je sais que c'était un musicien raffiné, il y a quelques enregistrements qui sont beaux. Il a écrit une musique évidemment très influencée par Debussy et Ravel, il est des ballets, un opéra. Bon, c'était un très très bon musicien, c'était mon maître. Mais je pense que si je l'avais eu à 18 ans, 19 ans, 20 ans, j'aurais eu de toute manière beaucoup plus de souvenirs. Parce que quand je parle avec des élèves qui ont été avec lui beaucoup plus tard, ils ont tous des souvenirs beaucoup plus précis.
Faisiez de la musique de chambre ou est-ce que ces cycles un peu bizarres que vous avez décrits, ces cursus, en fait, vous ont privé de faire de la musique
de
chambre ?
Non, pas du tout. Enfin, la musique de chambre, c'était quand même obligatoire. Et heureusement. En fait, il y avait à nouveau l'obligatoire, l'histoire de la musique, le solfège. Mais enfin, on était relativement une dérogation pour le solfège quand on avait un certain niveau. Il y avait le déchiffrage, qui était vraiment toujours très intéressant.
Et qui était votre professeur de déchiffrage ?
Rien de moins que Geneviève Joie, Madame Dutilleux. Enfin, Geneviève Joie qui était de toute manière, se suffit à elle-même, qui était une magnifique musicienne et pianiste. C'est vrai que j'étais dans sa classe pendant, ça a peut-être duré 2 ans. Et comme la musique de chambre, j'étais chez Jean Hubot, qui était aussi le grand professeur de musique de chambre de l'époque. Et donc, Jean Hubot était marrant parce que c'était aussi un magnifique musicien. Mais c'est vrai qu'alors, autant certains professeurs étaient dirigistes, autant lui, il avait toujours cette espèce de magnifique geste. Il mettait son index sur le front en disant « Oh, mais peut-être on peut faire ça comme ça aussi ». Il donnait toujours un champ de possibilités et finalement, on choisissait. Et c'était très, très bien parce qu'on nous mettait devant, effectivement, une décision qui était toujours, évidemment, en fonction d'un texte. Mais il n'était pas du tout dirigiste pour ça. Donc, ça a été très agréable. Mais c'est passé aussi trop vite. Et c'est vrai, quand on a 16 ans, en quittant le conservatoire, la musique de chambre, c'était terminé. Bon, ça a recommencé rapidement puisque finalement, tous mes copains, Augustin Dumay, Jean-Philippe, Hucolard, Frédéric Lodéon, tout ça... On a fait de la musique de chambre après, donc on s'est vite retrouvés.
Un extrait du premier mouvement Allegro con moto de la sonate en mi bémol mineur de Paul Dukas, interprété par Jean Hubot. Les références des œuvres entendues et le podcast de l'émission à retrouver sur la page de l'émission francemusique.fr. L'équipe aujourd'hui était constituée de Flora Sternadel, Julien Girard, Benjamin Vignal, Étienne Collin et Gilles Blanchard. À demain.
À réécouter sur francemusique.fr.